Prions. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu ce matin. Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir se réunir avec les frères et sœurs, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur, à cause de tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Maintenant, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux à ta parole. On veut grandir spirituellement. On veut être équipé, Seigneur, avec ce que tu vas nous laisser comme message. Parle à nos cœurs, Seigneur. Révèle-nous, ôte le voile, Seigneur, puis qu'on puisse être obéissant, attentif et obéissant à ce que tu vas nous dire dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia. J'ai commencé le deux derniers messages sur une série qui s'appelle « Préparer pour la guerre ». C'est une série qui va nous révéler le combat du chrétien, nos ennemis, quelles sont nos armes et la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Aujourd'hui, on va continuer sur la pensée « Quels sont nos combats? » La dernière fois, on a vu que notre combat, c'était de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Ça, il ne faut pas abandonner, frères et sœurs. Il faut persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, on va voir le deuxième combat de chaque chrétien, pas juste des pasteurs, pas juste des évangélistes, de chaque chrétien, qu'on doit réaliser qu'on est dans ce combat-là, puis celui-là avec, il faut combattre jusqu'à la fin. De lutter contre le péché, en parenthèse, les désobéissances. On va voir que, dans ce qu'on va regarder comme les versets qu'on va voir, les principales raisons que certains chrétiens n'y avancent pas dans leur vie chrétienne. Parce que quand on donne notre vie au Seigneur, on est carrément dans le monde avant d'accepter le Seigneur, puis on vit selon nos pensées, nos convoitises, nos désirs, les désirs de notre chair, les convoitises, aussi que les suggestions du diable, puis les suggestions du monde. Puis là, on court là-dedans. Là, on donne notre vie au Seigneur, on est sorti de là, on arrive au Seigneur. Spirituellement, il y a des miracles qui s'est produit par le changement que Dieu a fait en nous changeant de camp, en pardonnant nos péchés, en nous donnant le Saint-Esprit. Puis là, le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vais vous laisser l'Esprit, puis lui, il vous conduira dans toute la vérité. Puis Jésus a dit aussi, demeurez dans ma parole, puis là, vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Fait qu'on a l'intention, en tant que chrétien, de se laisser guider par l'Esprit, puis de rester, demeurer ferme, ancré à méditer la parole, puis de persévérer dans la parole, parce que c'est l'Esprit et la parole qui vont faire un œuvre pour nous changer, nous transformer, puis qu'on ait beaucoup de fruits dans notre vie. Humainement parlant, c'est impossible, personnellement, de produire du fruit sans Dieu, puis sans sa parole, c'est impossible. Sinon, on joue à la religion. Mais on va voir des choses qu'on va dans l'étude qu'il y a des chrétiens que dans leur marche chrétienne n'avancent pas. Puis il y a une raison pourquoi qu'on n'avance pas. C'est pas parce que Dieu veut pas qu'on avance. Non, la preuve nous a donné son esprit pour nous conduire. Si on n'avance pas dans cette direction-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Ça peut faire 20 ans que tu es chrétien puis tu n'as pas encore compris. Quel est le combat? Puis tu tournes encore en rond dans les mêmes péchés que tu avais avant, puis il n'y a pas de guérison, je parle de guérison dans ton âme, guérison, délivrance dans tes actions, dans tes choses que tu fais qui te déplaient à Dieu. Il n'y a rien qui se passe, mais il y a des raisons. On va voir dans cela des outils pour apprendre à combattre, pour atteindre une maturité dans le Seigneur, parce que Dieu veut qu'on grandisse. Il ne veut pas qu'on reste comme qu'on était. On va voir aussi comment devenir des hommes de Dieu producteurs de fruits en abondance. Ça, là, c'est le Saint-Esprit qui peut produire ça en utilisant la parole de Dieu, en autant qu'on coopère avec lui. Parce que dans Luc 6, 40, ça dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a un accomplissement à atteindre. Il y a un accomplissement qui est dans le vouloir de Jésus qu'on atteigne. Puis il y a un accomplissement qu'on doit atteindre parce que le Saint-Esprit nous a été donné dans le but de nous amener dans cet accomplissement, qu'on devienne comme Jésus dans notre marche.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut réaliser, qu'on est en guerre, frères et sœurs. Savez-vous qu'on a été sauvés pour porter du fruit?
Amen.
Si vous ne le saviez pas, là, je vous le dis. On a été sauvés pour rentrer dans les œuvres que Dieu préparait d'avance. Ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance, c'est des fruits qu'il veut qu'on ait dans notre vie. Il n'y a pas de mystère là. C'est une vérité expliquée dans plusieurs versets. Dans Jean 15:2, je vais juste vous lire un verset. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, c'est dans le plan de Dieu que le Saint-Esprit travaille à nous émonder. Puis quel est le but d'être émondé? Afin qu'on ait plus de fruits. Le but de Dieu, c'est que notre vie soit remplie de fruits. Il dit dans le psaume, il dit que quand on médite sa parole jour et nuit, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et son feuillage ne se flétrit point, il donne ses fruits en sa saison, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'on est près du courant d'eau, puis ce courant d'eau-là, c'est la parole de Dieu, la sève du Saint-Esprit qui coule en nous, qui ça produit tout ce qu'on a de besoin. Sans cela, on ne peut rien faire qui soit agréable à Dieu. Tu peux faire plein d'œuvres, mais c'est pas les. Tu peux faire la même œuvre, mais c'est pas fait par le Saint-Esprit parce que la sève coule en toi, c'est un fruit selon la chair, ça ne plaît pas à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Il faut arriver à demeurer en communion avec lui, puis là, en étant en communion, on s'alimente de sa sève, on peut faire les mêmes œuvres qu'une personne religieuse, sauf la différence, c'est que nous, on le fait parce que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est un fruit à la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Puis quand on commence à en produire des fruits, mais Dieu va enlever des choses de ta vie pour que tu en aies encore plus de fruits. Qu'est-ce que Dieu veut faire comme émondage dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut retrancher dans notre vie qui nuit à notre croissance, qui nuit aux fruits qu'on devrait porter? Pardon? Il y a plein de mauvaises habitudes qu'on a héritées de nos pères, un mauvais mode de vie qu'on a hérité de nos pères, mais qu'on a aussi accepté puis qu'on s'est aussi livré avant d'être chrétien. Puis quand on vient au Seigneur, c'est parce qu'on veut se repentir de cela. On veut s'en détourner. Se repentir, c'est pas juste dire « Oui, je le sais que Jésus sauve. » Non. Se repentir, c'est de vouloir changer de vie. Puis se convertir, c'est de commencer à la vivre puis la mettre en pratique, la parole. Fait que tu arrives à Jésus dans le but que tu sois changé. Seul, on le sait qu'on n'est pas capable, mais il donne le Saint-Esprit qu'un « let's go ». Le Saint-Esprit, il pousse en toi, puis il te montre des choses. Puis tant que t'es volontaire, il va faire là, puis ta vie va changer. Puis les fruits vont sortir tout seul. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les fait sortir. Mais là, on va s'attaquer à tout ce qui doit être coupé. Le secret de la vie chrétienne pour porter du fruit est de demeurer en communion avec le Seigneur et accepter à ce qu'il nous émonde. Parce que si on n'est plus en lui, ça règle l'affaire. On est déjà séparés parce qu'on n'est pas en lui. Mais si tout serment qui est en moi et qui emporte du fruit va t'émonder afin que tu en portes plus, ça veut dire le secret il est simple. Tu veux porter du fruit, demeure en lui, laisse-toi alimenter de sa sève. Puis, laisse-toi enlever ce qui nuit à cet esprit-là qui va agir dans ta vie. Puis là, tu vas emporter encore davantage de fruits. On va voir au début du message, la première partie, c'est les effets néfastes du péché. On le sait que le péché, que Dieu n'aime pas le péché. Mais quand on demande aux gens, oui, mais qu'est-ce que ça fait le péché dans ta vie? Puis des fois, on écoute ce qui est dit par la parole, puis on est indifférent. C'est comme si ça nous dérange plus. C'est comme si on l'a accepté, le péché, puis on est quasiment habitué avec. On vit dedans, puis on réalise pas que ça devrait pas être là, Puis on s'est tellement habitué, puis tellement durci, c'est comme un sol, un terrain, que l'eau coule dessus, mais l'eau pénètre plus parce que le sol est rendu trop dur. Frères et sœurs, il faut labourer notre terrain, parce que le péché dans notre vie, surtout, le Seigneur veut qu'on les comprenne, là, le péché dans notre vie nous empêche de porter du fruit que Dieu aime. Les effets néfastes du péché, en réalité, c'est les branches inutiles. Un chrétien n'a pas besoin de péché dans sa vie. J'apprends-tu quelque chose? Le chrétien, il n'a pas besoin de ça, du péché dans sa vie. Mais si on le tolère, il y a des conséquences. Le péché, dans le premier verset, dans Hébreux 3, le verset 13, dans ce passage-là, on va voir que le péché peut nous endurcir face à notre vie spirituelle. Hébreux 3, 13 nous dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ça parle à des chrétiens, ça parle pas à des gens dans le monde. Les gens dans le monde sont déjà endurcis face à l'appel de Dieu. Ils finissent, il y en a qui finissent par réaliser, puis là, ils donnent le nouveau Seigneur. Mais quand tu es chrétien, il dit « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire qu'on est en cours aujourd'hui, là, on est en cours sur la planète, mais je dois encore m'encourager et vous encourager à pas vous laisser endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché, je vais vous le dire, c'est beau. Ça a l'air bon. Ça a de l'air le fun. Parce que c'est comme un bonbon empoisonné. Quand tu le manges, tu as des effets secondaires qui te tuent. Mais ça a de l'air attirant. C'est une séduction. Quand c'est une séduction, ça veut dire que ça l'attire. Ça l'excite nos sens. Ça a comme un aimant pour notre corps à être attiré par cela. Parce qu'en nous, dans notre corps, habite le péché. Je vous apprends pas rien. On l'a vécu avant d'être au Seigneur. Puis Paul, il dit, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, dans notre chair. Ce que je veux pas, puis je suis pas capable de faire ce que je voudrais. C'est la loi du péché. Sauf que, en Jésus-Christ, il y a une nouvelle loi qu'on reçoit, c'est la loi de l'esprit et vie. Puis l'esprit et vie veut m'affranchir de la loi du péché en autant que je coopère à me laisser émonder. Le Saint-Esprit veut nous amener à nous émonder de tout cela en autant que je veux être émondé. Parce que je vous l'avoue, des fois, quand il coupe une branche, ouch, ça fait mal. Parce qu'il y avait souvent dans ce branche-là, on dirait qu'il y a bien des racines dans notre cœur, que ça nous fait de la peine que ça s'enlève, cette chose-là. Mais quand on l'accepte et que ça l'a cicatrisé, on est heureux d'avoir expérimenté les délivrances. On se regarde avant, j'étais comme ça, puis 10 ans après, dans le Seigneur, je suis rendu comme ça, comme ça, comme ça. Ma vie a changé, la nouvelle vie a pris la place, parce que je l'ai laissé prendre la place. J'ai coopéré avec le Saint-Esprit pour que ça soit fait. Si je l'endure, puis je me fais séduire, je vais m'endurcir face à ce que Dieu me demande. Dieu va me dire, viens, prends du temps avec moi, ou prends du temps dans ma parole, viens à l'église, va évangéliser, fais des bonnes actions en service, oh, j'ai pas le temps, puis là on est rendu refroidi face à ce qu'on pourrait faire pour Dieu, puis c'était toutes des œuvres que Dieu avait préparées d'avance, mais à cause qu'on s'est endurci, à cause que le péché est entré dans notre vie, on vient qu'un cœur dur, on n'a plus le goût de rien faire. Ça nous paralyse. Des fois, on peut être tellement paralysé longtemps qu'on peut être 10 ans paralysé pour la même raison. On comprend pas pourquoi il se passe rien. Puis c'est un péché qui nous a paralysé, qui nous empêche de recevoir ce que Dieu voulait faire. Premièrement, nous délivrer de cette branche inutile-là. Puis après ça, on aurait pris notre envol comme un oiseau que tu libères de sa cage. Chouf, on serait parti en volant, puis on aurait été heureux d'être libre. Le péché, ça capture, puis ça rend captif, là, t'es prisonnier, puis ça t'endurcit. Le deuxième effet que ça peut produire, le péché dans notre vie, c'est que ça l'attriste. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour demeurer éternellement avec toi. Dieu dit, je vais vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il veut vous conduire dans toute la vérité, afin qu'il demeure éternellement en vous. Ça, c'est un autre passage. L'Esprit est là, puis autant que nous, on aime ça être bien dans, avec le Saint-Esprit aime ça être bien avec nous. Mais il n'est pas toujours content de la façon dont qu'on vit. Dans Éphésiens 4, le 20, 29, ça nous en parle. Je prends la peine de lire le verset avant puis le verset après pour nous mettre dans le contexte. On va voir c'est quoi qui fait de la peine. Mais en réalité, c'est du péché. Mais jusqu'à où que certains péchés qu'on aime faire puissent, ça peut l'affecter. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, ça, l'amertume, c'est des blessures qui nous ont fait du mal, puis on se met à réagir avec ça parce qu'on est amer en nous. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, clameur c'est de crier, là. Parle patience puis crier. Toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voyez-vous, tout ce qui est mal, ce qui est mauvais, attriste le Saint-Esprit, il est plus bien, il est plus bien en nous. On bénit pas Dieu en nous. Il est obligé de forcer pour rester là. Ça lui déplaît au maximum parce que c'est complètement contraire au mode de vie qu'il aimerait qu'on vive. Puis il est tellement attristé qu'on peut même ressentir sa tristesse parfois. Même si notre cœur est endurci par le péché, on sort d'une réunion attristé. Puis souvent, c'est nos propres péchés qui ont fait que le Saint-Esprit est attristé et nous faire sentir qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'est pas content. On sort de la réunion avec une tristesse où on va être dans notre vie, dans la semaine, triste, puis on ne sait pas pourquoi. Puis c'est Dieu qui essaye de nous parler pour lui dire, puis il veut nous dire qu'il n'est pas bien. Nos péchés l'affectent. Nos mauvaises paroles puis nos mauvaises réactions l'affectent. Puis il aimerait nous émonder de tout cela pour qu'on soit libre de tout cela, puis qu'il puisse être heureux de prendre la place, puis nous remplir de joie, de paix, d'amour, de douceur, de patience, de sagesse, de révélation, de bénédiction, d'exaucement de prière. Il veut nous bénir au max, mais nos péchés nous en empêchent, puis là on tourne en rond. Une autre chose que le péché peut faire dans notre vie, dans Isaïe 59, le verset 2, le péché nous sépare de Dieu. Ça dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » On ne parle pas à des gens dans le monde, là. On parle à des gens qui connaissent Dieu, entre vous et votre Dieu. Il dit, « Ce sont vos péchés 59.2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il vient un temps quand on pratique le péché volontairement, il nous travaille, il nous le montre, là, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais on s'endurcit parce qu'on est séduit, puis là, on l'attriste, puis il vient un temps, là, que les péchés qui s'accumulent, mais le mur qui est entre nous deux s'accumule aussi. Et nos péchés, ça nous mène séparation. Puis il vient un temps qu'il n'est même pas intéressé de nous regarder aller, puis de nous écouter, puis de nous exaucer dans nos prières. Ça y fait trop mal à Dieu de nous voir dans l'état où qu'on est. Nos péchés l'offensent. Nos péchés le blessent. La tristesse, c'est une chose, mais ça fait du mal à Dieu. Puis ça l'épaissit le mur. C'est comme un couple qui est marié, depuis X temps, puis depuis une période de temps, il commence à s'engueuler à tous les jours. Qu'est-ce que ça fait quand on vit dans cette ambiance-là, puis qu'on ne demande jamais pardon à un à l'autre? Mais c'est comme ça s'accumule, là. Entre les deux, la communion est rendue presque impossible, parce que là, c'est des bêtises, puis des insultes, puis la guerre est prise entre les deux. Puis là, c'est comme si un leur met à l'autre, l'autre, ça se remplifie, puis le mur s'épaissit, puis il n'y a plus d'écoute entre les deux. C'est la même chose avec l'esprit qui est en nous. Il peut plus produire le fruit attendu dans notre vie, parce que notre mur s'est épaissi, notre entente, on ne se comprend plus. Lui, il nous parle, puis on n'écoute pas, puis on s'endurcit, puis on aime ça, puis on va même dire des choses ou faire des choses qui lui déplaît, puis ça a répincé le mur, puis là, il ne nous exauce plus. Ça met une séparation. Même aux chrétiens. Il ne faut pas penser que c'est juste aux gens dans le monde. C'est pas pour rien que dans la prière du Notre Père, quand Jésus a montré à ses disciples comment prier, il a donné un exemple, puis il a inclus l'idée, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. Mais c'est pas pour rien qu'il a montré aux disciples, il fallait que tu demandes pardon à Dieu. Faut que tu te réconcilies avec Dieu. Puis pour te réconcilier, faut que tu demandes pardon. Parce qu'il faut que ça arrête, ça, ces péchés-là qui l'offensent. Lui, c'est un esprit saint. Quand on vit dans le péché, dans la débauche, dans les méchancetés, on y fait de la peine, on l'attriste, puis il n'est plus capable. Puis c'est pas un gars qui, le Saint-Esprit n'est pas un gars qui cherche la chicane. Il n'est pas une personne, je ne suis peut-être pas un gars, il n'y a pas de gars ni de fille. C'est pas une personne, c'est pas un Dieu qui cherche la chicane. Il cherche une relation paisible d'amour comme un père envers ses enfants ou comme un berger envers sa brebis. Il veut prendre soin de nous, mais c'est nos péchés qui font qu'on marche loin de lui. Le péché, comme autre effet qu'il peut faire dans notre vie, dans Éphésiens 4, 27, c'est que le péché donne accès au diable. Ça nous dit, c'est un court verset, ne donnez pas accès au diable. Puis l'accès qu'on peut y donner par nos paroles. Vous avez vu, il y en a qui pensent que les chrétiens ne peuvent pas être affectés par un esprit mauvais. Judas, Satan entra dans Judas, il est un apôtre. Ananias et Saphira, comment t'as pu laisser Satan remplir ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pierre, Jésus, c'est après que Pierre ait parlé, Jésus il a dit, « Retire arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Le diable, là, il cherche à nous injecter ses pourritures. Puis quand on les accepte, qu'on les médite, puis qu'on se propose à les accomplir, on donne un accès au diable. Satan entra dans Judas. Puis il y a des conséquences. On va dire des choses qu'il ne faudra pas, on va faire des choses qu'il ne faut pas. Puis le Saint-Esprit, il peut-tu être bien quand on invite le diable à venir nous suggérer des choses de péché à faire, puis qu'on obéit au diable pendant que le Saint-Esprit est là? Ça se peut même qu'il soit plus capable d'endurer ça. Savez-vous qu'un autre point qu'un effet néfaste du péché, que le péché peut nous faire mourir spirituellement? Dans Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Ça, c'est dit encore à des chrétiens. Il y en a qui pensent que ça s'adresse à des gens dans le monde. Ça s'adresse pas à des gens dans le monde. Le verset dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, puis si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Ça s'adresse à des chrétiens, là. C'est qu'il faut réaliser que marcher dans la chair, marcher par notre chair, dans nos passions, dans nos convoitises, dans nos péchés, dans nos buts, dans nos objectifs, en réalité, on continue à faire notre volonté comme qu'on faisait avant d'être chrétien. Et si une fois que tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur pour que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité, tu l'écoutes plus. Puis là, t'es rendu que tu marches dans tes idées, dans tes péchés, dans tes convoitises, dans tes désirs. T'es livré encore dans la même vie que t'avais avant. Mais vous allez mourir spirituellement. Ça parle à quelqu'un de vivant qui peut mourir. Ça parle pas de quelqu'un de mort. Si nous persévérons dans le péché en tant que chrétiens, je vais vous sortir un dernier point. Le péché peut nous rendre dans un état pire qu'avant notre conversion. Dans 2 Pierre 2, chapitre, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas appris à combattre contre le péché, là. Ça parle qu'il y a des conséquences néfastes au péché, puis ça parle à des chrétiens. Ça veut dire, c'est supposé de nous mettre en garde, puis de nous équiper avec une attitude, là, je me laisse plus faire. Il n'est plus question, je laisse le diable m'entraîner, puis me ramener dans ce que je vivais avant. Dans 2e Pierre, ça nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ça parle à des chrétiens, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puis s'il engage de nouveau dans le monde et sont vaincus, il dit la dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Le péché, si on le tolère, puis on continue à le pratiquer, puis qu'on s'endurcit, puis qu'on persévère là-dedans, nous allons être vaincus. C'est ça que ça dit. S'il retourne dans sa vie, puis qu'il est vaincu, la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'était moins pire avant, comme souffrance, tourment, puis de te faire brasser par l'ennemi. C'était moins pire avant que si t'es devenu chrétien, puis après ça, tu retournes dans le monde, parce que là, il va t'achever. Il y a d'autres versets, il dit, les esprits, ils vont en chercher d'autres, puis tu vas se retrouver 7 fois plus pire. L'idée, c'est que quand tu embarques dans le chemin du Seigneur, là, le combat commence. Là, tu marches avec le Seigneur, puis le Seigneur marche avec toi. Il est en toi par son esprit. Puis là, la parole de Dieu commence à faire son effet. L'esprit veut t'émonder plein de choses, puis là, tu acceptes, puis tu confesses les choses. Tu t'en sors. Dieu te libère. Ta vie est changée. Puis on va voir plein de belles choses qui vont se produire quand tu marches avec le Seigneur. Une des choses les plus néfastes pour notre foi, c'est le péché. Ça détruit notre foi, notre zèle, puis ça nous éloigne de Christ. Quand tu es dans le péché, tu n'as plus le goût d'être zélé pour le Seigneur. Tu l'as plus, cette zèle-là, que donnait le Saint-Esprit. Ça ne te tente plus. Puis ta foi, quand tu veux avancer, puis tu te nourris spirituellement, tu te nourris de la Bible, mais la foi va faire grandir, pas la foi, la parole de Dieu va faire grandir ta foi. Mais si on marche dans le péché, c'est le contraire, on est en train de la détruire, notre foi. À rapetisse, puis on est rendu, puis on est dans le doute, puis dans la culpabilité, puis on est toute défaite, on n'a plus de force spirituellement, parce qu'on laisse le péché nous ravager. Le péché séduit les gens, il les saisit, il les rend aveugles, les endurcit, les détourne de la vérité. Comme le serpent, il saisit sa victime, il l'étrangle, il l'écrase. Mais le péché, c'est ce que ça fait dans la vie du croyant, de tout le monde sur la terre. Mais là, ça s'adresse pour nous qui est croyants, il ne faut pas se laisser faire. Quand on a accepté le Seigneur, c'était dans le but. On s'en sort. Je suis tanné de ce vie-là. Je ne veux plus vivre ça. Je vis tout croche, là. Je fais des choses que Dieu aime pas. Je veux changer. Tu donnes ta vie au Seigneur, il te pardonne. Gloire à Dieu. Mais il te donne son esprit pour t'affranchir, te libérer, t'émonder. Comment surmonter le péché dans notre vie? Bonne question. Il est important qu'on le sache. Comment est-ce qu'on peut s'en défaire du péché? Si on ne sait même pas qui est là. Il y a plusieurs petits points, on va y voir. Ça en est un. La première chose, comment combattre pour avoir la victoire? Là, écoutez bien ça. Il faut rechercher la présence et la révélation de Dieu dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Il faut développer une sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Afin qu'il nous révèle nos péchés, il faut être prêt et désireux à se laisser changer dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos agissements. Première chose, Êtes-vous disposé à changer? C'est ça qui est être repentant, vouloir changer de vie. Êtes-vous intéressé de revêtir la nouvelle vie qui est en Jésus? Le Saint-Esprit veut produire, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Vous avez besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça, cette sensibilité-là d'être à son écoute, là, ça se développe. C'est pas naturel. Avant, on marchait par nos sens. Le goûter, si on a le goût de boire une bière, c'est le goûter, ça, là. Le goût, l'écoute, les yeux, les convoitises, ça, là, les yeux. L'écoute, là, tu peux entendre des choses qui t'activent ça, dans tes péchés. Les passions de ton corps, là, les sensations, les sentiments, c'est, on marchait selon les sens de notre chair avant. Mais quand tu deviens chrétien, là, faut que tu développes l'écoute du sens spirituel de, dans ta vie, d'une voix de l'esprit qui veut parler à ton esprit. C'est dans le monde spirituel, c'est pas dans le monde charnel. Si on vit dans le monde charnel, puis qu'on continue à faire des péchés, on va continuer à s'endurcir, puis à épaisser le voile, puis on n'entend pas Dieu parler. Il faut s'arrêter, dire là, je veux changer, Seigneur. Je veux apprendre à être à ton écoute. Je veux savoir ce que tu veux changer dans ma vie. Là, quand tu es à la recherche, tu vas commencer à comprendre parce que c'est là qu'il va te parler. Parce qu'il nous a souvent parlé, mais on ne l'entend pas, puis on ne l'écoute pas, puis on oublie. On ne sait même pas, même des fois, qu'il veut nous parler. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Il ne faut pas oublier qu'il y a la réponse de la brebis qui suit son maître. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Où est-ce que Dieu me parle? À quel endroit Dieu nous parle? Il nous parle dans notre cœur, mais à partir de où? Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les prédications. Je suis sûr que quand vous écoutez ce que je suis en train de dire, il y a des lumières qui s'allument. Il y a des petits clics qui se font. Ah oh oui, ah oh oui. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous convaincre. C'est ça, la voix de Dieu. Il vous le dit que c'est vrai ce que je vous dis. Puis il vous met même une pulsation, un désir. C'est lui qui produit le vouloir. Et le faire, c'est la capacité de rentrer puis de le faire. C'est lui qui produit ça pendant que vous écoutez sa parole. Il faut être à l'écoute. Puis aussitôt qu'il nous montre quelque chose, comment doit-on réagir? Ça, c'est l'autre question. Là, on le sait comment l'écouter. Il faut être attentif, il faut développer l'écoute à l'Esprit de Dieu. Apprendre à discerner, oh Dieu est en train de me parler, là. Ça fait trois fois aujourd'hui que j'entends un sujet, mettons, faire attention à ma langue. C'est, puis du monde différent qui me parle de ça, là. C'est sûr que Dieu il est en train de vous parler de ça. D'autres fois, c'est d'autres choses. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans un rêve, dans un songe, dans une vision, une révélation. Il parle dans les prédications. Voici comment la Bible nous ordonne de réagir lorsque Dieu nous révèle un péché. Parce qu'il nous parle pas juste au niveau des péchés. Il nous enseigne toute chose. Mais des fois, il nous montre un péché. Comment est-ce que je devrais réagir? Pas si ça me tente. Non, tu es un chrétien, tu dois obéir. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Y es-tu le Seigneur? Est-ce moi le disciple ou c'est moi le Seigneur? Puis lui, c'est le disciple. Lui, là, s'il n'est pas content, là, mais il s'arrange, moi j'ai ma vie à faire. C'est-tu de même qu'on pense? C'est le contraire. Si c'est le Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Puis là, quand tu écoutes sa voix, c'est avec joie que Seigneur, oui, me voici. On est tout le temps de même, gloire à Dieu. C'est de même qu'il faut être. La première chose, quand il nous révèle un péché, parce que là, on veut combattre le péché, c'est ça notre guerre spirituelle, c'est ça notre combat spirituel, combattre contre le péché. S'il nous en montre un, il faut tout de suite le confesser. Oui, Seigneur, c'est vrai. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Amen.
Trois points bien intéressants dans ce verset-là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire, tu le sais que tu as fait cette transgression-là, puisque tu la caches. On parle d'un pécheur réveillé, un pécheur conscient de son péché. Si tu le sais pas, Dieu t'a pas encore parlé sur cette chose-là. Dieu, c'est parce qu'il sait qu'il est là, ce péché-là, mais c'est pas là-dessus qu'il veut travailler, là. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je t'ai pas rendu parfait parce que je l'ai accepté cette journée-là. Non. J'ai donné ma vie au Seigneur avec joie, sachant que je m'en allais en enfer, m'en allais dans les temps de feu, puis je voulais pas y aller, puis je savais que Jésus était mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je l'ai accepté comme mon Sauveur et mon Seigneur, puis je me suis engagé à le suivre, mais je connaissais rien de ce qui en était du mode de vie d'un chrétien. Je connaissais rien, mais c'est avec joie que j'ai répondu, « Seigneur, je veux être sauvé. » Ça, c'est parfait. Dieu, il sait, puis Dieu est content. Dieu se réjouit devant les anges de Dieu dans le ciel quand qu'un seul pécheur se convertit. Gloire à Dieu. Mais après ça, il commence à te montrer la vie chrétienne, pas à pas, un par un. Puis là, notre croissance se fait en autant qu'on écoute, puis qu'on avance dans le Seigneur. On va avancer aussi vite qu'on est capable d'écouter. C'est quand qu'on arrête d'obéir, qu'on arrête d'écouter, qu'on arrête, peut-être en partant, de le dire, « Oui, c'est vrai, j'ai fait ce péché-là, Seigneur. » Là, on cache notre transgression, tu prospères point, que le verset vient de dire. Tu grandiras pas dans le Seigneur si tu gardes ça caché. Dieu, il sait que tu l'as fait. Toi, tu sais que tu l'as fait. Si tu le caches, tu seras pas délivré. Tu prospéreras pas, tu vas rester à cette position-là, puis tu vas tourner en rond là-dedans, puis tu vas en subir les effets, puis à long terme, ça va arriver des conséquences qu'on a vues. Il dit, si tu le confesses, par exemple, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a deux choses. On est-tu prêt à avouer nos péchés? Les confesser à Dieu, ça c'est déjà la première chose. Puis des fois c'est dur à faire. Mettre en lumière les choses, mettre à la lumière les choses. Les AA, là, ils disent dans son... C'est pas du monde chrétien, mais ils disent quand même, si tu n'avoues pas ton état, que tu es alcoolique, si tu ne l'avoues pas que tu es alcoolique, tu ne pourras jamais réussir à t'en sortir. Faut que tu le reconnaisses, faut que tu l'avoues. Puis si Dieu te le montre, c'est parce que Dieu le sait, puis toi tu le sais, fait que là, la première chose, Seigneur, pardonne-moi. Faut que tu l'avoues. Puis il faut que tu travailles avec le Saint-Esprit pour que Seigneur vienne m'émonder de ça, puis il va le faire. Il y a un temps que ça peut prendre, des fois ça peut être automatiquement le premier coup, puis il y en a d'autres fois, ça va prendre un certain temps avant que tu sois délivré. Mais le Seigneur, il sait, puis il entreprend, puis il va le faire en son temps, puis tu vas porter ton fruit en ton temps, puis ton feuillage, il flétrira pas, parce que tu marches à jour. 1 Jean 1, il faut aller lire aussi ce verset-là, parce qu'il y a, oh, mais ça c'est un verset dans l'Ancien Testament, oui, mais ça dit la même chose dans le Nouveau Testament. 1, 6. C'est ça qu'il faut veiller, frères et sœurs, à conserver ce qu'on va voir là. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, noirceur, non-confession, parce que tu gardes en noirceur, ça veut dire que tu ne confesses pas, là. Tu ne marches pas dans la lumière. Tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais tu marches dans les ténèbres. Nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité, parce que la vérité, c'est pas rien qu'une connaissance, c'est une pratique. C'est quelque chose à vivre, la vérité. Marcher dans la parole de vérité, par l'esprit de vérité, c'est une marche, c'est des choses à vivre, des choses à faire. C'est pas juste une connaissance. Je connais la vérité, ça sert à rien si tu le sais. Le diable aussi sait que Jésus, c'est le Sauveur. Ça fait rien. Juste le savoir. Mais marcher, pratiquer la vérité, ça n'est une autre. Puis si on marche dans les ténèbres, on ne pratique pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Là, ça parle de la lumière. Tout à l'heure, je disais, si on branche au cèpe, la sève va couler en nous, puis va nous émonder, puis on en produit encore plus. Demeurer dans la lumière, c'est le même exemple, mais dit autrement. Demeurer en lui, demeurer branché au cèpe, ou marcher dans la lumière, c'est de marcher mutuellement en communion, c'est la même affaire. C'est quand tu es en communion que le sang de Jésus, son Fils, te purifie de tout péché. Mais si on n'avoue pas nos péchés, puis notre mur s'épaissit, on n'est plus en communion. On est en séparation, en mode séparation. C'est le péché qui nous sépare de Dieu, puis là, le Saint-Esprit est attristé, puis il ne peut plus produire en nous. La sève est bloquée, la sève ne coule plus, la lumière ne pénètre plus. Puis là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est là qu'on rentre dans la deuxième idée. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire, on le sait qu'on a fait un péché, Dieu nous l'a dit qu'on l'a fait. Je n'ai pas fait de péché, moi. Là, on montre aux autres, je ne suis pas comme ça, moi. Mais en fin de compte, notre conscience est affectée, elle sait. Nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est point en nous. Wow, c'est fort! Comment tu veux qu'un chrétien qui a l'esprit de vérité, qui a la parole de vérité, puis qui la Bible a dit là, que la vérité n'est même pas en lui? Il faut faire attention de ne pas être déconnecté de la vérité, frères et sœurs, parce que la vérité, c'est quelque chose qui se pratique. C'est pas quelque chose qui se comprend juste intellectuellement. Il faut que tu avoues que tu es dans le péché quand tu sais que tu as fait un péché. Tu le confesses à Dieu. Et si nous disons que nous n'avons pas, on se séduit, puis la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, là, on les avoue. Là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Voyez-vous le processus de l'émondage? Il va nous pardonner parce qu'on l'a confessé. Il va nous aussi nous purifier de toutes ces iniquités-là. Il va les couper. Mais la première chose, s'il te montre des péchés, il faut que tu les confesses. Il faut que tu les avoues. Si tu les avoues pas puis tu dis « j'ai rien fait », tu es dans les ténèbres, tu ne marches pas dans la vérité, puis la vérité n'est pas en toi. D'autres choses qu'on doit apprendre à développer, là, avec le péché, il faut apprendre à développer la haine du péché. C'est pas automatique. Afin de ne pas pratiquer volontairement le péché. Dans Jude 1, 23, ça nous dit « haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair ». Un chrétien devrait marcher dans l'amour. Oui, c'est vrai qu'on devrait marcher dans l'amour. Tout le temps. Mais on est obligé aussi de marcher dans la haine. La haine du péché. Tu peux pas marcher en tant que chrétien dans l'amour du péché. Parce que là, tu vas tomber dans la haine. Parce que là, le péché va détruire ta vie spirituelle, comme qu'on a vu. Tu ne pourras pas vivre dans l'amour avec ton prochain. Puis ta vie spirituelle, tu tournes en rond jusqu'à temps que Dieu t'abandonne, jusqu'à ta repentance. Apprendre à haïr le péché, c'est pas automatique, parce que on a un combat tout de suite en partant dans nous-mêmes. Mon corps, il les aime, les péchés. Puis mon corps, c'est mon ennemi. Mon premier ennemi. Puis ça, on va le voir dans la suite, dans les autres études. On a quatre en tout des ennemis, mais les trois principaux, là, c'est notre corps, le diable puis le monde. Et il nous en propose plein de péchés. Mais il faut que j'arrive à haïr le péché. Puis ça, là, si on a de la misère, il faut prier Dieu pour y arriver. Parce que c'est pas quelque chose de naturel en nous, c'est le contraire, on aime ça. Mais c'est pas à cause qu'on aime ça que c'est permis de Dieu. Dieu haït le péché, puis il faut pas laisser le péché détruire notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Il faut aussi apprendre à rejeter le péché. Parce que le péché, comme je l'ai dit tantôt, a des effets négatifs, puis ça nous alourdit en tant que chrétiens. Hébreux 12:1, ça nous dit, « Nous tous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Dieu a mis une carrière pour nous, puis là, on doit courir là-dedans. Mais il y a des choses qui nous alourdissent dans notre vie chrétienne, c'est le péché. Tu peux pas courir si tu es dans le péché. Ça nous enveloppe tellement facilement. Il faut apprendre à rejeter le péché, à dire non au péché. C'est pas automatique, même si tu aimes ça, mais ça se fait. Jésus l'a fait. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Puis soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Puis sortez du milieu, touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Faut fuir le péché, touchons pas au péché, faut apprendre à haïr le péché, faut apprendre à rejeter ce qui déplaît à Dieu. Puis courir dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue des souffrances qui étaient imposées, il a méprisé la honte et l'ignominie, il a accepté son chemin puis a couru jusqu'au bout. Il faut apprendre à rejeter le péché, puis il faut apprendre à résister au péché. C'est quelque chose que tu peux dire non. Le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Dans nos forces humaines, impossible. Mais si tu veux que le Saint-Esprit t'émonde, il veut que tu travailles avec lui en disant non, en proclamant les versets de la Bible, dans le nom de Jésus, puis là, on veut la victoire. Dans Hébreux 12, qu'on voit ça, le verset 3, ça nous parle de Jésus, comment est-ce qu'il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin qu'on se lance point comme l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais ça, c'est aux chrétiens que ça s'adresse. On doit avoir comme exemple Jésus qui a supporté contre sa personne une opposition incroyable, pas juste de ses propres péchés qui aura pu l'attirer parce qu'il était tenté en toute chose sans commettre de péché, mais toute l'opposition qu'il a eue avec le diable puis avec le monde qui est autour. Bien, il nous dit, apprenez à résister, apprenez à rejeter, apprenez à haïr, confessez-les. Il y a d'autres versets qui disent même condamner le péché. Dans Éphésiens 5:11, ça dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Quand tu vois que tu le sais que c'est mal, qu'est-ce que les gens sont en train de faire, non, moi je veux rien savoir de ça, c'est pas pour moi. Tu condamnes le péché, tu le rejettes, tu le refuses. T'embarques pas dans ça. C'est ça qu'il dit, heureux de celui qui s'assit pas en compagnie des malcœurs. Tu t'assieds avec eux autres, tu commences à jaser avec eux autres, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas embarquer dans la conversation qu'ils font, puis tu vas tomber dans les mêmes péchés. Dans Galates 6:1, même quand on veut reprendre un frère qui vit dans le péché, il faut que tu fasses attention. Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Tu peux être en train de vouloir exhorter un frère ou une sœur sur quelque chose. Il faut que tu fasses attention que tu ne sois pas toi-même tenté. Parce que ce qu'il est en train de faire, tu t'en vas reprendre quelqu'un qui a fait adultère avec un autre, puis là, tu es avec une fille devant toi, là. Mais là, elle, avec ses paroles, puis ici, elle peut t'influencer, puis te donner le goût d'y aller avec toi ici. Le péché, il ne faut pas se penser supérieur aux autres. La Bible nous le dit. Celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. Puis il faut veiller et prier afin d'avoir la force pour tout surmonter puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Jésus qui le dit. Il faut faire attention de ne pas être tenté. Parce que des tentations, vous allez en avoir toute votre vie. Même si les choses avaient eu des victoires dans votre vie, vous allez être retentés. Quand Jésus a dit à Satan, « Retire-toi, Satan », ça dit, « Et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. » Il y a eu d'autres moments favorables où ce que le diable est venu pour tenter Jésus. Puis la dernière chose qu'on doit faire avec le péché, là, à part de le confesser, de l'haïr, de le résister, de le rejeter, de le condamner, il faut le faire mourir, le péché. Puis ça, le faire mourir les actions pécheresses de notre corps, là, on est incapable par nous-mêmes d'y arriver. Il faut accepter de laisser le Saint-Esprit nous émonder. Parce que premièrement, il commence par nous le montrer. Telle chose, là, je veux que tu me le donnes. Je veux que tu arrêtes ça. Puis là, il te le montre, mais on résiste, puis on veut pas le voir. On se tourne la tête quand il nous montre de quoi. On veut pas changer. Il veut nous changer. Lui peut nous changer, pas nous. Romains 8, 13, ça nous le dit. Je l'ai mentionné une partie tout à l'heure. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut apprendre à marcher par l'esprit. Puis ça, il faut laisser, il faut accepter qu'il le fasse. Il faut confesser, puis demander au Seigneur de venir nous libérer. Puis il va le faire en son temps, quand il a décidé. Puis mais qu'il le fasse, tu vas être délivré, mais tu peux combattre pendant un bon bout, puis tant que tu n'es pas délivré, il veut que tu apprennes le combat et que tu luttes contre le péché dans ta vie. Qui est rendu parfait ici? Pas de main élevée, personne n'est parfait, c'est parfait. Non, je donnais l'exemple, mais moi vous dire franchement que moi non plus, je ne suis pas parfait. Donc, on a encore plein de péchés à combattre, puis pas se laisser faire, parce que il y a des effets néfastes. Nous devons commencer à lutter contre, afin d'en être délivrés. Marcher selon l'esprit et dominer notre vie, c'est cela le combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, on est tout prêt à vouloir chasser un esprit dans la vie de l'autre. C'est pas ça. Ça va arriver une fois par 10 ans que tu vas rencontrer ça. Mais combattre dans ta vie contre le péché, c'est du combat spirituel. Tous les jours, il faut se concentrer à enlever la poutre qui est dans notre œil avant de dire à un frère, « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. » Jésus dit, « Hypocrite, commence premièrement à enlever la poutre dans ton œil, puis là, tu vas comprendre comment enlever la paille dans l'œil de l'autre. » On doit prendre toutes les armes de Dieu puis commencer à combattre afin de ne pas être entraîné loin du sentier par le péché. Parce que étroite est la porte, resserrée le chemin. Ça, c'est le sentier qui mène à la vie. C'est pas la vie de péché. C'est le sentier qu'on doit s'efforcer à conserver. Une communion avec l'Esprit de Dieu. Une marche par l'Esprit. Puis cet esprit-là veut nous conduire dans toute la vérité. Je vais finir juste avec un petit texte que j'ai lu sur Internet qui parle de ce sujet-là. Puis il est édifiant. On va prendre 2 minutes. Dans le Colorado, au lieu dit de Long Peak, gisent les restes d'un séquoia. C'est un gros arbre, âgé de plus de 400 ans. Ni les ans, ni les tempêtes, ni les avalanches n'ont pu venir à bout de ce géant. Alors, pourquoi s'est-il abattu soudain un jour? Tout ce gros arbre-là avait 400 ans, il a supporté des tempêtes et ainsi de suite. Il a toujours resté debout, puis à un moment donné, une journée, paf, il a tombé à terre. Il nous donne l'explication. Une sorte de doryphore. Ça, c'est une petite bébé que pourriez écraser sous votre semelle, l'a attaqué, puis l'a dévoré en son cœur. Quelle leçon pour nous! Nous devons faire très attention. Ce sont les petits renards qui détruisent les vignes. c'est-à-dire les petites habitudes, apparemment sans importance, celles auxquelles vous prêtez peu d'attention, mais qui deviennent des habitudes indéracinables. Les petites indulgences là qu'on passe par-dessus, là, puis qu'on se pardonne à soi-même, puis on les laisse là, les petits péchés. Là. Les petites indulgences qui, à la longue, vous rendront insensibles à la conscience du péché. Vous souvenez-vous du temps où ces choses vous rendaient mal à l'aise? Parce qu'il y a eu des moments où on était mal à l'aise face à certains péchés. Et maintenant, vous n'y pensez même plus. Vous avez perdu votre sensibilité au péché. Chaque alcoolique se dit toujours au départ, « Je peux contrôler mon problème. » Chaque victime de la pornographie sur Internet a commencé par jeter un coup d'œil, puis a été pris au piège de sa fantaisie, puis a fini par libérer un tigre qui risque de le dévorer ou qui lui sera plus en plus difficile de remettre en cage. Chaque péché commence un petit péché mignon. C'est le fun. J'aime ça. Ça change en lion, puis te dévore. Puis le gros tarbe, qui avait 400 ans d'usure, qui avait résisté à tout, ben, il a été mangé par en dedans par des petites bébites minuscules, puis le gros tarbe, paf, il s'est jeté à terre. Combien est-ce qu'il y en a de ministères chrétiens là, qu'on a entendu, ce que les prédicateurs importants ont tombé dans des péchés, puis ça a très lourdement affecté leur ministère. Il y en a qui se sont repentis, puis qui ont repris la course, puis il y en a d'autres qu'ils se sont découragés puis qui ont abandonné la course. C'est pas une option de combattre le péché. C'est une obligation si nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Sommes-nous prêts à livrer le combat? Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole que tu nous enseignes. Tes révélations, tout ce que j'ai besoin de comprendre pour ma marche chrétienne, afin que je marche en communion avec toi. Je te demande, Seigneur, d'aiguiser nos sens, de nous rendre sensibles, Seigneur, à discerner ta voix, tes conseils, tes directives, pour qu'on abandonne le péché, qu'on te le confesse, puis qu'on l'abandonne, qu'on y résiste, qu'on rejette, qu'on le condamne, qu'on le fasse mourir par la puissance de ton esprit. Viens nous émonder, Seigneur. Viens changer nos vies. Prends ma vie. Transforme-moi et transforme-nous, Seigneur. Et rends-nous plus que vainqueurs afin qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.